Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission en direct. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est compliqué, qui est atroce et horrible sur certains aspects, mais il me semble important d'évoquer ce type de sujet. Alors aujourd'hui, pour cette petite émission live qui va durer à peu près 1 heure, nous allons parler des sectes sataniques, du satanisme donc, entre mythe et réalité. Puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir, le monde médiatique, politique est un petit peu ébranlé par l'affaire Jeffrey Epstein. Alors, pour résumer en 2 mots, hein, c'est l'histoire d'un membre de l'élite, on va dire, hein, quelqu'un qui était extrêmement riche, qui avait un gros réseau social, etc., tout ça, et qui a eu des comportements criminels atroces, condamnables, qui ont été condamnés, et le monsieur est mort. Il s'est suicidé en prison, ou du moins on l'a aidé à se suicider, voilà, suivant les versions, etc., etc. Alors, mettons tout de suite les choses au clair. Je n'ai aucunement l'ambition de parler de politique ou de sujet d'actualité. Je profite simplement de cette actualité pour évoquer un sujet avec vous qui va flirter avec les sujets de la Web TV, puisque j'ai pour habitude de traiter des sociétés secrètes, des sectes, des traditions ésotériques, des rituels et tout un tas d'autres choses qui peuvent se rapprocher de près ou de loin de ce type d'actualité médiatique. Alors, nous allons parler des sectes sataniques, tenter de comprendre de quoi il s'agit, tenter de comprendre quels sont le fonctionnement de ces sociétés sataniques, si tant est qu'elles existent, et justement, on va tenter d'explorer un petit peu la question. Alors, justement, posons un petit peu le cadre. La première chose, c'est que il est de coutume que deux camps s'opposent un petit peu sur le sujet. D'un côté, vous avez des personnes qui vous disent, de toute façon, le showbiz, les politiques, les grands patrons, etc., c'est tous des satanistes, ce sont tous des lucifériens, ils font des rituels orgiaques, des sacrifices humains et tout un tas d'autres choses pour servir le diable et pour obtenir du pouvoir, des richesses et tout ce que vous voulez. Ça, c'est le camp numéro 1. En face, vous avez un autre camp qui va dire: tout ceci, c'est du complotisme, ceci, ça n'existe pas, tout ceci, ce sont les mêmes travers que la chasse aux sorcières fut un temps, que l'idée du complot de judéo-maçonnique, du complot de jésuite, ou des extraterrestres, ou de la Terre plate. Donc vous avez deux camps qui s'opposent et qui ne dialoguent pas, la plupart du temps, si ce n'est en s'insultant. Si, sur un plan d'analyse historique, on peut en effet critiquer la théorie du grand complot sataniste, hein, bien entendu. Là, on pourra faire référence, par exemple, à la satanique panique, la panique satanique, hein, qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 70-80, où les gens voyaient un complot satanique absolument partout. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de témoignages divers et variés, comme quoi il y avait des sacrifices humains sataniques, des enlèvements et tout un tas d'autres choses. Mais force est de constater qu'au niveau judiciaire, cela ne s'est pas concrétisé. Donc, de temps en temps, il est vrai, il y a une hystérisation, une complotisation du fait satanique dans la société. Mais les événements récents nous interrogent quand même en nous disant, mais au final, y aurait-il pas un petit peu de vrai dans ces histoires de complots élitistes d'ordre sataniste? Eh bien, on va tenter de se poser la question, non pas, encore une fois, je le répète, non pas pour parler des sujets d'actualité, mais nous allons travailler comme nous le faisons d'habitude, c'est-à-dire sur un plan historique, pour tenter de répondre à quelques questions. Alors, je vous montre le plan de cette petite émission afin d'y voir plus clair. Tout d'abord, le diable se cache dans les détails, c'est ce que l'on va voir. Ensuite, une première partie, c'est quoi le satanisme concrètement? Puisque si on parle d'élite sataniste et de sacrifices, etc., qui seraient faits en dévotion à Satan, eh bien, encore faudrait-il savoir qu'est-ce qu'on entend par satanisme. Ensuite, des satanistes en voilà, on va présenter des gens qui se sont revendiqués objectivement du satanisme, qui se considèrent comme satanistes et voir ce qu'ils ont fait, en l'occurrence. Ensuite, on va parler des cas réels des sectes sataniques, puisque satanisme ne veut pas dire secte, et secte ne veut pas forcément dire satanique, société secrète ne veut pas non plus forcément dire satanisme, etc., etc. Ensuite, on va parler donc du satanisme, oui ou non, on va étudier quelques cas pour voir si oui ou non cela peut faire écho avec ce que l'on va nommer vulgairement le satanisme. Alors tout d'abord, petite introduction. Oui, avant d'aller dans la première partie, le diable se cache dans les détails. Pourquoi? Eh bien, quand on reprend par exemple en actualité l'affaire Epstein, va dire, voilà, c'est un monstre, objectivement, hein, je suis le premier à dire que c'est un monstre, et peut-être même qu'il y a des implications de personnages politiques importants qui sont peut-être impliqués dans des choses équivalentes à ce sombre personnage. Je ne suis pas juge et je n'ai pas de compétences en le domaine, donc je ne suis pas là pour accuser des gens. J'illustre simplement un élément qui est plausible, à savoir qu'il est tout à fait possible, encore une fois, que ce personnage ne soit pas seul à avoir eu ce type de travers et qu'il y ait tout un tas de personnages dans l'élite, en l'occurrence, qui ont pu être impliqués de près ou de loin dans ces crimes. Ça, c'est possible. Néanmoins, ce n'est pas parce que des individus sont des pourris, des salauds et des criminels que tout le monde l'est automatiquement. Il faut de la nuance. Et donc, on va tenter de naviguer en eau trouble pour essayer de voir un petit peu ces nuances. Donc, première partie, nous allons voir c'est quoi concrètement le satanisme. Alors, j'ai fait trois émissions qui traitent de près ou de loin du sujet du satanisme. Tout d'abord, une émission longue qui fait à peu près 3 heures, qui dit donc le satanisme c'est quoi, où je tente de vous présenter l'histoire du satanisme, quelles sont les différentes doctrines du satanisme, quels sont les différents courants du satanisme, le satanisme culturel, le satanisme théiste, le satanisme néo-païen, le satanisme athée et le satanisme gnostique. En ce sens, j'ai notamment fait une émission qui s'appelle la gnose luciférienne, donc qui traite spécifiquement de cette vision de Lucifer en tant que porteur de lumière, porteur de connaissances, et qui est une forme de satanisme, mais qui ne voue pas de culte au mal. Et puis j'ai même reçu des satanistes sur la chaîne récemment, il y a quelques mois, où j'ai interviewé 2 personnes qui se revendiquent du satanisme pour qu'ils nous partagent pourquoi ils se définissent comme satanistes, qu'est-ce qu'ils font concrètement, quelle est leur doctrine, leur philosophie, quels sont leurs rituels, etc., etc. Donc, je vous y renvoie pour plus de précision sur ce qu'est objectivement le satanisme. Là, faisons une petite distinction. Dans le satanisme, grosso modo, il y a 3 grandes tendances. La première tendance, c'est celle qui est notamment popularisée par Anton Sandor Lavey, hein, avec l'église de Satan dans les années 60-70, qui est ce qu'on va appeler le satanisme athée. Alors c'est un satanisme qui ne croit pas que Satan est une créature réelle, qui ne croit pas que Satan est une entité existante sur un plan objectif, mais qui voit dans Satan un symbole de contre-culture, un symbole de revendication sociale, un symbole pour combattre les religions, la morale chrétienne, les doctrines établies, voire même la société dans son ensemble. En ce sens, le satanisme athée n'est pas un culte ou une apologie du mal, c'est plutôt une sorte de contre-culture transgressive qui cherche à s'écarter de la morale chrétienne, entre parenthèses. Alors, je ne suis pas là pour vous dire que c'est bien ou pas bien, hein, ce n'est pas du tout le propos. Je dis juste que le satanisme athée n'est pas un courant philosophico-mystique qui revendique un culte à Satan au sens d'une entité malveillante, pour faire simple. Le deuxième courant du satanisme, c'est les lucifériens. Alors les lucifériens, c'est des gens qui vont faire la distinction, en général, entre la figure de Satan, figure maléfique opposant à Dieu. Ils vont considérer, donc les lucifériens, qu'il y a Dieu au sens l'ordre établi, cosmogonique, et de l'autre côté, l'entité du chaos, du désordre, qui est Satan, et que ces deux entités s'opposent, l'un le bien, l'autre le mal, ou plus spécifiquement, l'ordre et le chaos. Et qu'entre les deux, il y a Lucifer en tant que le porteur de lumière, qui serait celui qui est le porteur de connaissances, donc qui offre le libre arbitre à l'homme, celui qui offre, par l'intermédiaire du serpent, le fruit de la connaissance du bien et du mal, et qui permet à l'homme et la femme, bien entendu, de s'émanciper de ces deux contrastes antagonistes que sont Dieu et Satan pour cheminer en libre arbitre. En très résumé, c'est ça ce qu'on pourrait appeler l'archétype luciférien. Et donc, les adeptes de la gnose luciférienne sont des gens qui considèrent qu'on accède à l'éveil, à l'illumination, par l'accès à la connaissance, la gnosis, tout simplement. Donc, évidemment, les lucifériens ne sont pas forcément des adeptes de Satan au sens l'entité du mal. Et là, il faut nous intéresser au troisième courant, qui est le satanisme théiste. Donc, eux, ils vont considérer qu'il y a Dieu et qu'il y a Satan. Et que Satan, eh bien, c'est une entité, une sorte de dieu antique, d'une certaine façon, et il lui voue un culte. Alors là, il y a 2 écoles. Dans le satanisme théiste, il va y avoir une première école qui va considérer que Satan est un personnage en fait sympathique, qu'en fait le Dieu de la Bible, eh bien c'est lui le méchant, et que Satan le révolté, c'est le gentil, et donc ils inversent la problématique, Dieu devient le méchant et Satan devient le gentil. Donc en ce sens, ces satanistes théistes-là ne sont pas forcément des adeptes du mal, au sens des actes malveillants dans la société, si vous voyez l'idée. En revanche, il y a un autre courant qui considère que bah, il y a le Dieu de l'Ancien Testament et de nouveau aussi. Bon, ok. Et puis Satan, c'est le révolté qui offre des pouvoirs. Qui offre des pouvoirs, le pouvoir, la richesse, l'amour, la beauté, la puissance, des pouvoirs occultes, tout un tas d'autres choses. Et ce sont des personnes qui, en connaissance de cause, vont vouer leur âme au mal afin d'accomplir des actes atroces dans le but que Satan les serve, enfin, ils vont servir Satan dans le but que cette entité leur offre du pouvoir. Et donc, ce sont des personnes qui font objectivement des choses maléfiques. Et cela existe, en l'occurrence. Voici pour les grandes familles du satanisme, bien entendu. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand une personne se livre à des actes atroces dans la société, est-ce que c'est automatiquement du satanisme? Est-ce qu'un type, un type comme Jeffrey Epstein, est-ce que c'est un sataniste, objectivement? Est-ce que le fait qu'il ait commis des choses atroces fait de lui automatiquement un sataniste? Est-ce que ça nous dit il vouait un culte à Satan? Eh bien, pas automatiquement. Est-ce que tous les sales types dans la société sont automatiquement des satanistes? Ben, pas forcément. Et c'est là que ça devient compliqué, en fait. Donc, du coup, il y a des sales types qui se réfèrent aux satanistes, et il y a des sales types qui se réfèrent pas aux satanistes. Et puis, il y a des satanistes qui font des choses atroces, et des satanistes qui font rien de mal. Vous voyez, on est dans une histoire de détails. Ce n'est pas blanc ou noir, tout ceci est gris. Et j'espère que vous voyez cette première nuance. Alors, maintenant, des satanistes, en voilà. On va étudier un petit peu quelques personnages qui, objectivement, se sont réclamés du sataniste et ont commis des choses atroces. Je vous cite trois exemples, il y en a de nombreux autres. On pourrait citer Richard Ramirez, encore surnommé le marcheur de la nuit, qui se revendiquait sataniste, qui a commis des crimes en dévotion à Satan et qui a été condamné pour cela, bien heureusement. On pourra citer un cas en Italie, les Best of Satan, donc c'est une sorte de groupe lié à la musique du black metal, qui n'ont pas forcément commis des meurtres directement, mais sont responsables de façon directe ou indirecte de suicides ou de meurtres en l'occurrence. Et ils ont été aussi condamnés pour ça, bien heureusement. Cocorico, on pourra citer un Français, Nicolas Clot, qui a lui aussi commis un meurtre qui se réfère au satanisme de près ou de loin. À noter, et là, nous vivons dans un monde absolument délirant, ce monsieur a fait une peine de prison, bien entendu, ce monsieur est encore vivant, ce monsieur est sorti de prison, et aujourd'hui, il a des fans, et il dédicace ses livres où il raconte son histoire. Mais dans quelle planète on vit? On a des gens qui sont objectivement des criminels, qui ont été condamnés pour ça, et qui, bon, pignon sur rue, peuvent vendre leur prose en faisant dédicacer leurs images de leurs atrocités. Bref, nous vivons dans un monde absolument fantastique. Digression finie, poursuivons. Donc, du coup, nous avons des personnes qui sont objectivement des salauds et qui ont commis des actes atroces. Ceci est un fait. Et là, on a des personnes qui se sont référées directement au satanisme, en l'occurrence. Alors, évidemment, les personnes que je vous ai citées ne sont pas forcément des personnes qui font partie de l'élite. C'est pas ce qu'on pourrait appeler un satanisme élitiste. Ils ne font pas partie du showbiz. Ce ne sont pas des acteurs, ce ne sont pas des chanteurs, des politiciens ou que sais-je encore. Et donc, du coup, la théorie du grand complot sataniste s'intéresse plutôt aux élites. Sauf que les satanistes reconnus comme tels, que l'on connaît, bah, ce n'est pas forcément cette catégorie sociale. Alors, du coup, on peut néanmoins invoquer une problématique. Il est possible que dans les hautes sphères, les personnes soient protégées par un système mis en place, que la justice soit beaucoup plus complexe, les moyens financiers et tout un tas d'autres raisons, fait que ces personnes peuvent passer potentiellement entre les mailles du filet. Mais là, je vous renvoie à une maxime. Vous connaissez tous la célèbre phrase de la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, aux mêmes problématiques, les mêmes constantes. S'il y a des salauds en bas de la société, il y en a probablement aussi en haut. C'est logique. Mais si tout le monde était des salauds en haut, Ça suggérait en équivalence que tout le monde serait des salauds en bas. Eh bien non, ne soyons pas binaires. Il y a des connards dans toutes les catégories sociales. Donc, pour l'illustrer par un petit schéma, si vous connaissez bien Richard Ramirez, Nordal Lelandais, Jeffrey Dahmer ou encore Charles Manson, eh bien, en haut, vous ne les connaissez pas forcément. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas, mais ne faisons pas des généralités, ce n'est pas forcément tout le monde. Il faut être dans la nuance. Alors, est-ce que Jeffrey Epstein était un sataniste? Eh bien, encore une fois, pas forcément. Et là, on arrive à la problématique donc de notre émission. Est-ce que le fait que quelqu'un ait un comportement atroce et condamnable auprès des enfants, est-ce que ça fait de lui un sataniste? Non, ça fait de lui un sale type qui mérite la justice, qui mérite d'être condamné par la justice. On est bien d'accord. Mais ça ne fait pas forcément de lui un sataniste. Si on prend un autre exemple, il y a un paquet de prêtres qui ont été condamnés pour des mœurs déviantes envers des enfants. Est-ce que ça fait d'eux des satanistes? C'est délicat, c'est des prêtres. Compliqué. Si vous prenez, par exemple, dans l'islam, il y a, sur un plan légal, dans la charia, le mariage avec des enfants est autorisé. Je vous rappelle que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans et eu des rapports avec elle à 9 ans, d'après les textes du moins. C'est condamnable dans nos sociétés. Mais du coup, est-ce que c'est des satanistes? Non, c'est là que c'est compliqué. Le problème étant que, étant donné que nous sommes dans une culture, je ne parle pas de religion, je parle d'une culture judéo-chrétienne, quand on veut exprimer par un terme des actes atroces ou des comportements déviants, on va utiliser le terme de satanisme. Pourquoi? Parce que dans notre société, le terme de satanisme fait référence au mal, fait référence aux choses sombres, fait référence à la magie noire ou à tous les actes atroces de la société. Mais c'est une simplification de langage. Vouloir imposer l'étiquette satanisme à tous les actes atroces, c'est une simplicité pour des gens qui ne se réfèrent pas forcément au satanisme. Alors du coup, il serait plus judicieux d'utiliser le terme de comportement satanique plutôt que de dire ce sont des satanistes, si vous voyez cette petite nuance, bien entendu. Alors, évidemment, les cas que je vous ai cités tout à l'heure, les criminels notoires qui ont été condamnés pour satanisme notamment, ce n'étaient pas des gens qui faisaient partie d'organisations. Donc, est-ce qu'on peut parler à ce stade de secte satanique ou de société secrète de nature satanique? Eh bien, pas forcément. Alors, de fait, on va devoir s'intéresser aux sociétés ou aux sectes bien réelles qui ont des références sataniques. Et là, vous comprenez la nuance que j'ai tenté de vous apporter il y a quelques instants. Il n'existe pas. Je ne devrais pas dire il n'existe pas. Nous ne connaissons pas, serait plus judicieux, nous ne connaissons pas de société secrète ou de secte qui se revendiquent directement du satanisme et qui ont commis des choses atroces. Je prends quelques exemples. Nous pouvons citer l'église de Satan de Anton LaVey. Nous pouvons citer le temple de Seth qui est une branche dissidente de l'ordo templier orientis anciennement. Nous pouvons citer certains courants de la Wicca luciférienne. Nous pouvons citer la fraternité Saturni, par exemple, qui, dans une certaine mesure, se revendique du satanisme. Ce sont des sociétés qui se revendiquent du satanisme, mais qui n'ont pas commis de choses répréhensibles. Vous voyez l'idée? Donc, de ce fait, ils sont objectivement satanistes, du moins dans une des différentes familles du satanisme, mais ils n'ont pas commis de choses atroces envers des enfants, ils n'ont pas fait de sacrifices humains, et etc., etc. Vous voyez l'idée? Après, est-ce qu'ils ont des comportements déviants? Eh bien, ça, c'est une question de morale. Est-ce qu'ils font des orgies sexuelles? C'est possible. Est-ce que c'est du satanisme? C'est possible. C'est une question de lecture au sens dérive morale dans une société judéo-chrétienne. Mais dans ce cas, si faire une orgie est une dérive morale, tous les clubs libertins sont des clubs satanistes. Ça serait logique. Alors certains vont dire oui, en l'occurrence, vous avez le droit de le penser. Et puis certains vont dire, non, en fait, c'est pas ça le satanisme, etc. C'est compliqué. Nous sommes en eau trouble, voyez l'idée. Alors du coup, ces structures, sociétés secrètes qui se revendiquent objectivement du satanisme, ne sont pas forcément ce que l'on va considérer comme étant des structures dangereuses, en l'occurrence. Mais ce qui ne veut pas dire que des structures dangereuses et commettant des actes atroces n'ont pas existé. Sauf que ces dernières ne se revendiquent pas automatiquement du qualificatif de satanisme. Et nous allons explorer quelques exemples rapidement. Alors, des messes noires au XVIIe siècle. Oui, cela a existé. Même si la littérature a largement exagéré le propos, même si il y a de fortes zones d'ombre dans ces histoires, il y a bel et bien eu des messes noires avec une portée de satanisme théiste qui ont lieu au XVIIe siècle. Cela a impliqué des personnes de l'aristocratie de l'époque, donc sous la cour de Louis XIV, notamment la célèbre Lavoisin, Catherine d'Essey, dite Lavoisin, qui était une empoisonneuse, qui était une faiseuse d'anges, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une accoucheuse, une avorteuse en l'occurrence. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était interdit par la loi, hein, l'avortement, bien entendu. Et elle se serait livrée à des pratiques de magie noire et des messes noires. Alors, elle était assistée dans ses actions par Étienne Guibourg. Alors, Étienne Guibourg était un prêtre défroqué. Donc, vous avez, dans la Bonne Société parisienne, un prêtre défroqué, prêtre catholique défroqué, une sorcière de l'époque, une sorcière mondaine de l'époque, qui pratiquait des messes noires, probablement aussi des rites de nature sexuelle, même si cela est difficile de l'affirmer sur un plan historique. Et il y a eu du beau monde de la société de Louis XIV qui a fréquenté ces groupes-là. Donc, nous avions, objectivement, quand on s'intéresse au satanisme des élites, nous avons un cas authentique de satanisme élitiste au XVIIe siècle dans la cour de Louis XIV. Ça a fait grand bruit à l'époque dans les journaux, il y a eu des condamnations, il y a eu quelques personnes qui ont disparu des radars, qu'on a envoyées dans leur maison de résidence de province pour disparaître à tout jamais, puisque vous comprenez que des personnes de la haute société impliquées, cela faisait tâche. Alors, on n'allait pas forcément les exécuter, mais on les a mis au vert dans la campagne, si je puis dire. Donc là, on a un cas objectif de personnes qui ont pratiqué des rites condamnables au XVIIe. Alors, évidemment, malgré toutes ces zones d'ombre, c'est un cas historique de satanisme, peut-on dire. On a un autre cas, un petit peu plus soft, mais quand même notable, c'est celui de Eugène Vintras avec les fameuses hosties sanglantes. Alors, qui est Eugène Vintras? Tout d'abord, ce dernier ne s'est jamais revendiqué lui-même du satanisme. Il n'a jamais prétendu être sataniste. C'était un mystique qui considérait être la réincarnation du prophète Élie. Donc, bon, il avait quelques prétentions, peut-on dire. Et il a créé une sorte de structure, une sorte de groupe, une sorte de petite secte, peut-on dire, qui s'appelait l'œuvre de la miséricorde. Alors, dans ce groupe, il pratiquait des rituels, qui étaient une sorte de parodie de la messe, où il faisait ingérer à ses ouailles, à ses disciples, des hosties sanglantes. Alors, d'après les dires de Vintras, il les faisait apparaître comme par magie. Donc, c'est des hosties qui saignaient, donc symbolique du sang du Christ, hein, vous aurez compris. Mais en réalité, bon, il est tout à fait probable que ce soit du charlatanisme et qu'il ait simplement mélangé les hosties avec son propre sang. Donc, on a bel et bien rite sanglant. Néanmoins, on n'a pas dans ce groupe-là de sacrifice humain. Il n'y a pas eu de sacrifice humain, il n'y a pas eu de disparition problématique, il n'y a pas eu de dérive sexuelle avec des enfants, du moins pas à la connaissance historique que l'on en a. Néanmoins, il y a eu des pratiques de nature sexuelle, des pratiques sanglantes via ces hosties, et une dérive d'un gourou avec drôle de personnage qui avait, on va dire, tout pouvoir psychologique sur ses adeptes. Donc là, on a un personnage qui a été accusé de satanisme en son temps. Et pourquoi il a été accusé de satanisme? Eh bien, il a été accusé de satanisme parce qu'il avait un rituel qui dénaturait, qui pastichait le rituel de la messe, qu'il pratiquait, qu'il avait des pratiques sexuelles déviantes aux yeux de la morale de l'époque. Ce côté sanglant avec les hosties, bien entendu. Donc, on n'est pas sur du satanisme au sens pédophilie, crime sanglant, sacrifice humain ou enlèvement. on est sur des rites déviants, des rites de magie noire, peut-on dire, par rapport à la morale de l'époque. Donc, c'était ça, le satanisme, en ce temps. Alors, il a eu un successeur qui s'appelait l'abbé Boulan, ou Joseph-Antoine Boulan. Alors, lui aussi, c'est un prêtre défroqué, comme quoi, vous voyez que c'est souvent dans l'Église qu'on va trouver les adeptes du satanisme, si je puis dire. Alors, lui, il a repris l'œuvre de Vintras après lui, sauf qu'il a été beaucoup plus loin, puisqu'il a mis en place tout un système de rituels où il considérait en fait que les démons existaient et qu'il était le meilleur moyen de se libérer du mal, c'était de cultiver le mal ou de l'épuiser d'une certaine façon. Alors, vous comprenez que c'est un petit peu curieux comme approche. Pour faire une petite comparaison, c'est assez proche d'un mouvement qui existe en Russie qui s'appelait les Klistis, dont était membre Rasputin, le célèbre Grigori Rasputin, qui considérait que pour que le mal disparaisse du monde, il fallait épuiser le mal, et la meilleure façon d'épuiser le mal, c'était de le pratiquer. Vous voyez, c'est un petit peu tortueux. Alors, à noter que ni Rasputin, ni Joseph Boulan ne se revendiquaient satanistes. À aucun moment, ils n'ont considéré qu'ils étaient des satanistes. Mais ils ont été accusés de satanistes par les autres. Alors, Joseph-Antoine Boulan, lui, il pratiquait des rituels avec des orgies de nature sexuelle. Il y avait tout un système de recrutement de jeunes filles de la bonne société de l'époque. Donc, vous voyez la dérive, en l'occurrence. Là, ça pourrait se rapprocher de ce que l'on voit actuellement avec l'affaire Einstein. Donc, des orgies sexuelles, une emprise mentale sur les fidèles, des pratiques des hosties sanglantes, hein, qu'il a repris de Vintras, bien sûr, mais pas uniquement. Il avait également des rituels où il faisait ingérer à ses ouailles des substances organiques qu'on obtient lors du coït, si vous voyez l'idée, pour ne pas employer les mots. Charmant, n'est-il pas? Donc, évidemment, Joseph-Antoine Boulan n'a pas, du moins à notre connaissance, commis de sacrifice humain. Il n'a pas, à notre connaissance, eu des comportements horribles avec des enfants. Alors, avec des mineurs, probablement, du moins des jeunes filles, 16, 17, 18 ans, etc., c'était tout à fait possible à l'époque. Mais, encore une fois, c'était rien à voir avec des enfants-enfants, si vous voyez l'idée. Mais, évidemment, c'est des pratiques qui ont été considérées comme sataniques. Et là, donc, les affaires modernes de satanisme des élites, quand on dit les élites sont satanistes au sens ils ont un comportement scabreux qui défie la morale avec des perversions de nature sexuelle, eh bien, en soi, c'est très proche de ce que faisait Joseph-Antoine Boulan, pour le coup. Mais pas de sacrifice sanglant dans cette secte-là. Alors, à noter que Joseph-Antoine Boulan va décéder et que, à l'époque, on a considéré certains journalistes de l'époque, notamment Joris Karl Yousman, a considéré que Joseph-Antoine Boulan aurait été assassiné par magie noire par d'autres personnes qui auraient été en réalité aussi des satanistes. Vous voyez, c'est une cacophonie complète. Alors, comment se passe toute cette histoire? Eh bien, il faut parler d'un personnage qui s'appelait Jules Bois. Alors, Jules Bois a écrit un texte notamment qui s'appelle « Le satanisme et la magie ». Dans ce texte, Jules Bois dénonce le satanisme parisien de l'époque, il dénonce toutes les petites sectes sataniques de l'époque, les vraies et certaines imaginaires, forcé de le constater. Il reprend pas mal les travaux de Léo Taxil, hein, qui avait écrit sur la franc-maçonnerie à l'époque, mais bon, tout ça pour dire que Jules Bois accuse à peu près tous les occultistes de la belle époque d'être des satanistes, ou du moins des satanistes qui s'ignorent. À noter que Jules Bois lui-même a été un occultiste en son temps, puis il a eu une conversion fulgurante au catholicisme sur les derniers temps de sa vie, d'où notamment ce livre, hein, où il dénonce ardemment le satanisme et l'usage de la magie. Alors, le plus curieux, c'est que Jules Bois critique Eugène Vintras. Il traite pas Vintras de satanisme au sens premier du terme, mais il traite de déviant et d'être un sataniste qui s'ignore. Mais paradoxalement, il était ami avec Joseph-Antoine Boulan, que nous avons vu juste à l'instant, et il va prendre sa défense contre les personnes qui accusent Boulan d'être un sataniste. Curieux, n'est-il pas? Reprenons l'histoire. Joseph-Antoine Boulan a sa petite secte satanique, où il pratique ses orgies sanglantes, il pratique ses rites de nature sexuelle de toutes les façons possibles, avec sa cohorte d'adeptes et notamment de jeunes femmes. Et là, vous avez un occultiste en particulier, Stanislas de Guaita, occultiste de son état, qui va enquêter sur Joseph-Antoine Boulan, qui va infiltrer sa secte. Alors, c'est pas lui qui va l'infiltrer, il va envoyer son secrétaire personnel, Oswald Wirt. Oswald Wirt va infiltrer la secte de Boulan et va rapporter ce qui s'y passe, et notamment les rituels. Donc, de là, Stanislas de Guaita, dans un de ses livres, qui s'appelle Le Temple de Satan, va écrire sur Joseph-Antoine Boulan pour dénoncer ses activités qui sont, à son point de vue, de Guaita, de nature satanique. De là, Joseph-Antoine Boulan meurt de cause naturelle, sauf que le journaliste Carl Joris Husmann et l'auteur Jules Bois vont accuser Stanislas de Guaita, l'occultiste, d'être la responsable de la mort de Boulan, qu'il aurait tué par magie noire. Donc vous avez d'un côté Guaita qui dit Boulan est un sataniste, et de l'autre côté Bois et Husmann qui disent que c'est Guaita en réalité le sataniste. Tout ceci aboutit à un duel judiciaire entre d'un côté Stanislas Guaita accompagné de Papus, Gérard Encausse, et de l'autre côté Joris Husmann et Jules Bois de l'autre côté. Tout le monde se tire dessus au pistolet, résultat il n'y aura aucune victime, là c'est plutôt bien fini. Mais vous voyez la cacophonie de l'époque. Ce qui est sûr, et là je le dis avec les outils de l'historien si je puis dire, mais à l'état actuel de nos connaissances, si on devait trancher l'histoire, à savoir qui était sataniste entre Stanislas de Guaita et Joseph-Antoine Boulan, il ne fait pas le moindre doute que c'est Joseph-Antoine Boulan le sataniste et que Guaita, qui certes était un occultiste, mais n'a commis aucune orgie de type scabreuse, n'avait pas de pratique rituelle de type déviante, du moins qui nous soit connue. Donc, vous voyez toute la complexité du sujet. Alors, allons un petit peu plus loin avec un dernier cas de sataniste, si ce n'est que celui-ci est encore plus compliqué que les précédents, puisque nous manquons de données sur un plan historique. Alors, le très haut lunaire, qui serait la structure au sommet d'une société secrète qui se serait appelée le Grand Lunaire. Alors, cette société secrète, le Grand Lunaire, aurait existé, d'après différents témoignages d'occultistes, de francs-maçons, de personnes du milieu ésotérique divers et variés, cette société secrète aurait existé au XIXe siècle. Mais on n'en a pas de preuve. Elle aurait continué à exister pendant le début du XXe siècle et serait entrée en sommeil définitivement à l'entrée de la Deuxième Guerre mondiale. D'après tous ces témoignages d'époque, ce serait dans les derniers temps, dans les années 30, dans l'époque des années folles, ce serait une société élitiste parisienne vouant un culte à Lucifer sous le nom de Grand Lunaire et que ces personnes se réuniraient nuitamment en forêt de Fontainebleau pour accomplir des rituels, notamment des orgies sexuelles, avec tout un tas de jeunes femmes recrutées à Paris. Des personnes de la bonne société parisienne, des bourgeois, des notables, des médecins, des politiques X et Y, etc., auraient créer cette petite cabale et, profitant de leur argent et de leur position dans la société, ils auraient utilisé ça pour attirer des jeunes femmes très charmantes, mais assez jeunes, disons 20 ans grand maximum, pour les attirer moyennant finances et tout un tas d'autres choses, pour les utiliser dans le cadre de leurs orgies, vouant un culte à Lucifer. Alors, évidemment, là, comment faire la part des choses entre la réalité et la fiction? Eh bien, nous ne trancherons pas ce débat ce soir, puisqu'il faudra faire une émission dédiée spécifiquement au Grand Lunaire et à ce qui s'y passait réellement. Tout ça pour vous dire que l'idée d'une élite sataniste qui pratiquait des orgies et qui aurait eu un comportement contestable, eh bien, existait déjà dans les années 30, existait déjà au 19e et existait déjà au 17e, au temps de Louis XIV. Ce n'est pas nouveau. Quelle est la part de réalité? Eh bien, je serais tenté de vous dire que la part de réalité est que ça existe, bien sûr. Mais il ne faut pas faire de raccourcis. Ce n'est pas parce que de tout temps, il y a eu des sociétés, des élites corrompues, qu'il y a eu des gens qui se sont réunis, profitant de leurs moyens financiers, profitant de leur position et de leur impunité, pour accomplir des choses déviantes ou qui seraient condamnables aux yeux de notre morale et parfois condamnables aux yeux de la justice, bien sûr. Cela a toujours existé. C'est très très difficile à identifier, bien entendu, mais ne faisons pas un raccourci en considérant que c'est tout le monde. C'est un raccourci grossier, tout simplement. Et c'est cette nuance qui me semble importante de définir. Alors, pourquoi ces groupes élitistes d'ordre sataniste? Ordre sataniste au sens du mot actuel, c'est-à-dire qui ont un comportement qu'on va considérer déviant aux yeux de la morale judéo-chrétienne. Certains se réunissent tout simplement pour faire ce qu'ils ont envie de faire, avoir leurs pratiques jugées déviantes, mais sans que celles-ci soient condamnables sur un plan judiciaire. Et en ce sens, bah, ils font ce qu'ils veulent entre eux, et à la limite, c'est leur problème. Là où il y a problème, c'est quand cela viole la justice, quand ça contrevient à la loi. Et là, ça doit être condamné, bien évidemment. Et donc, dans ces groupes d'élites satanistes, on pourrait eux-mêmes, si tant est qu'ils existent, ou du moins ceux qui existent, les séparer dans ces deux catégories. Ceux qui ont des pratiques que l'on peut juger comme déviantes, mais qui ne sont pas illégales, et ceux qui ont des pratiques déviantes, mais en plus illégales. Et donc, ça sépare, vous voyez l'idée? Donc, c'est un millefeuille. Alors maintenant, pour voir quelques éléments aussi, revenons sur cette définition de satanisme. Est-ce du satanisme ou est-ce que c'est simplement une pratique jugée déviante aux yeux de la morale chrétienne? Prenons quelques exemples. La Fraternité Hermétique des Frères de Luxor. C'est une société secrète ou une société occulte qui existait au XIXe siècle. Dans cette société occulte, il y avait des rituels de type un peu paramaçonnique, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des rituels initiatiques divers et variés. Il y avait des rituels de nature sexuelle, dans le but de produire un peu à la façon tantrique des énergies, inspirées par les travaux de Pascal Beverly Randolph, hein, qui s'appelle de ses travaux la magie sexuelle. Donc, dans cette société, vous avez des rites initiatiques, des rites de magie sexuelle, des personnes qui s'intéressent à l'hermétisme, à la cabale, au tarot, à l'astrologie, à l'alchimie, etc., tout ça, qui, les membres sont des personnes habituellement de la bonne société parisienne, londonienne, etc., etc., et qui font donc ces activités de nature ésotérique. Est-ce que c'est des satanistes? Est-ce que le fait qu'ils fassent des rites de magie sexuelle fait d'eux des satanistes? Pas obligatoirement. Cela ne veut pas dire qu'ils vouent un culte à Satan. Cela ne veut pas dire qu'ils ont des pratiques illégales. Cela ne veut pas dire qu'ils font des choses horribles avec des enfants ou qu'ils font des sacrifices humains. Cela veut dire qu'entre adultes consentants, ils se réunissaient pour faire des rites de magie sexuelle. C'est leur problème, ça les regarde. Donc, ils ne sont pas satanistes au sens objectif sur un plan judiciaire, mais ils peuvent être considérés comme satanistes sur un plan de la morale judéo-chrétienne. Et c'est très différent, en l'occurrence. Vous êtes libre de juger, après. Cela vous regarde. Là, on est simplement en train d'énumérer les nuances. Prenons un autre cas, la franc-maçonnerie luciférienne. Alors, évidemment, vous connaissez tous la grande affaire de Léo Taxil qui accusait la franc-maçonnerie de servir Lucifer, de faire des sacrifices humains, des orgies et tout un tas d'autres choses. Évidemment, les œuvres de Léo Taxil étaient un canular. C'est une suite de pamphlets, une suite de textes qui avaient pour but de faire de l'audience et Léo Taxil lui-même avouera son canular. Néanmoins, tentons de dépasser l'affaire de Léo Taxil pour poser la question. Est-ce que la franc-maçonnerie est sataniste? Reprenons les différents éléments. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la franc-maçonnerie. J'ai fait un cycle de 3 émissions qui traitent de la franc-maçonnerie sur 3 angles d'approche. Une première émission qui traite des liens entre l'ésotérisme et les sciences occultes avec la franc-maçonnerie. Une deuxième qui traite du satanisme avec la franc-maçonnerie, est-ce que la franc-maçonnerie est de nature sataniste, donc c'est une émission de 3 heures, et une troisième émission qui traite des rapports entre la franc-maçonnerie, la politique et les religions. Donc, je vous y renvoie. Là, faisons ça. La franc-maçonnerie est une société secrète, ou discrète, qui est née au XVIIIe siècle, début XVIIIe siècle, du moins dans sa forme instituée. Alors, elle existe un petit peu avant, en réalité, au XVIIe, mais dans sa forme actuelle, elle existe depuis le XVIIIe. Ça réunit à l'époque principalement des gentilshommes, de l'aristocratie, puis progressivement des bourgeois, et aujourd'hui à peu près toutes les classes sociales. La franc-maçonnerie a des rituels de nature ésotérique, et leurs membres ont des conversations philosophiques, des conversations politiques pour certains d'entre eux. Il y a une franc-maçonnerie politisée, il y a une franc-maçonnerie qui ne fait pas de politique, c'est assez pluriel. Mais est-ce que c'est objectivement des satanistes dans la globalité? Aux yeux de l'Église catholique, les satanistes, les francs-maçons, aux yeux de l'Église catholique, les francs-maçons sont en état de péché grave. Mais l'Église catholique ne dit pas automatiquement que les francs-maçons sont des satanistes. Ça, c'est une exagération. L'Église catholique dit juste qu'ils sont en état de péché grave. Maintenant, est-ce que les francs-maçons eux-mêmes se revendiquent comme sataniques? Non. Dans l'immense majorité des cas, les francs-maçons ne se réclament pas du satanisme. Néanmoins, il existe certains francs-maçons, certains auteurs notamment, qui ont considéré que la franc-maçonnerie pouvait avoir un aspect luciférien. Mais pas luciférien au sens Satan, le toto maléfique qui veut tout détruire, mais en référence à Lucifer, le porteur de lumière, le porteur de la connaissance. Et en ce sens, ces quelques francs-maçons qui se revendiquent de la gnose luciférienne ne vouent pas de culte au mal, mais sont dans une démarche qui est assez proche du gnosticisme antique. Est-ce que ce sont des sataniques, des satanistes au sens maléfique qui font des sacrifices humains, etc., tout ça? Non. Est-ce qu'ils sont sataniques aux yeux de l'Église catholique ou de la morale judéo-chrétienne? Oui, dans une certaine mesure, puisque voit un intérêt à la figure luciférienne et considère que l'homme a une part divine en lui. Donc on est dans la nuance. Néanmoins, même ce courant du luciférianisme au sein de la franc-maçonnerie, il est extrêmement minoritaire. Il va considérer même pas 1% des membres de la franc-maçonnerie. Mais il existe, en l'occurrence. Donc la franc-maçonnerie, au sens global, n'est pas satanique, au sens qu'elle ne pratique pas de sacrifice humain, ce qui ne veut pas dire que certains de ses membres n'ont pas commis des choses atroces. On pourra citer récemment le cas de la loge Athanor, dans l'Est de la France, où vous aviez une loge maçonnique qui commanditait des assassinats, etc. Alors ce sont des criminels, ce sont des assassins, et ils ont été condamnés pour cela. Mais est-ce que ça fait d'eux des satanistes? Eh bien, c'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que des gens font des assassinats que c'est automatiquement des satanistes. Voyez la nuance. Donc, toujours pareil. Est-ce que la franc-maçonnerie, c'est du satanisme? Non, au sens global. Par contre, si on considère leur comportement comme anti-chrétien ou quoi que ce soit, certains vont considérer qu'ils sont satanistes. Mais ce n'est pas la même chose. Prenons un troisième cas, le plus sulfureux. C'est bien sûr ce cher Aleister Crowley, surnommé parfois Toméga Therion, la grande bête. Aleister Crowley est un occultiste. Aleister Crowley est un personnage sulfureux, sans aucun doute. Aleister Crowley a pratiqué la magie sexuelle. Aleister Crowley a eu des comportements déviants par rapport à la morale de son époque, bien entendu, et même par rapport à la morale actuelle, bien entendu aussi. Mais est-ce que Aleister Crowley est un sataniste? Déjà, lui-même ne se considérait pas comme tel. Ses disciples ne se considéraient pas comme tel. Ses disciples actuels, c'est ceux, par exemple, de l'Ordo Templi Orientis, d'Astrum Argentum, ou ceux qui s'intéressent à son enseignement, notamment à Téléma, sa philosophie, ne se considère pas comme sataniste. Néanmoins, ses détracteurs, à son époque, le considéraient comme sataniste. Et les gens qui ne l'aiment pas aujourd'hui le considèrent aussi comme sataniste. Donc, excusez-moi, je bois une gorgée. Est-ce que Aleister Crowley était un sataniste? Tout d'abord, malgré les légendes populaires et malgré toute la romance noire autour du personnage, Aleister Crowley n'a pas fait de sacrifice humain. Aleister Crowley n'a pas tué d'individu ou quoi que ce soit. Ça, c'est la légende noire. Néanmoins, il avait un comportement déviant aux yeux de la morale de l'époque. Donc, il pouvait être satanique aux yeux de la morale quant à son comportement, mais pas au sens culte de Satan. Il ne vénérait pas Satan en quantité diabolique, il n'a pas cherché à répandre le mal sur terre et à invoquer des démons. Vous voyez l'idée? Donc, de quel satanisme on parle? C'est toujours pareil. C'est une question, dans quel cadre on va utiliser le mot sataniste? Et cela veut tout dire et rien dire, en fait, le terme de sataniste. Ce n'est pas parce que des gens font des choses atroces qu'ils sont automatiquement adeptes du satanisme. Et inversement, ce n'est pas parce que des gens se revendiquent du satanisme qu'ils font automatiquement des choses atroces. Vaste problématique. Alors, maintenant, je vais voir dans le chat si vous avez quelques questions. Donc, je mets une petite barre dans le chat et je vais vous laisser me poser vos questions et je vais tenter au possible d'y répondre. Pour conclure, le temps que vous puissiez écrire vos questions dans le chat, évidemment, dans cette petite émission qui est courte, parce que je ne consacre qu'une heure au sujet, on ne peut pas entrer dans les détails du Grand Lunaire, on ne peut pas entrer dans les détails de la fraternité hermétique des frères de Luxor, on ne peut pas entrer dans les détails de la vie d'Aleister Crowley, et on ne peut pas entrer dans les détails, encore une fois, de la secte des messes noires de Lavoisin au XVIIe siècle, bien entendu. Voilà pourquoi ceci va faire le cadre de prochaines émissions sur la Web TV. C'est en préparation. Je suis en train actuellement de préparer plusieurs émissions et je vais vous partager un petit peu le programme des mois à venir. Alors tout d'abord, quelques bonnes nouvelles. Je vais déménager très prochainement, donc à partir de mars, le mois prochain, j'aurai un nouveau studio de tournage et des conditions bien plus favorables pour vous proposer les prochaines émissions. Vous le saviez peut-être, mais j'ai déménagé dans l'Aude il y a 2 ans de cela. Je vivais dans une maison assez petite, on va dire, et donc j'avais un espace de tournage assez réduit, un espace de travail assez réduit, au point que les livres que vous voyez derrière ne constituent qu'une petite fraction de ma bibliothèque. Donc je n'avais pas accès à la plupart de mes livres qui sont en carton depuis 2 ans. Donc c'était des conditions assez compliquées, on va dire, pour travailler ces 2 dernières années. Donc là, cela se termine, je déménage dans très peu de temps, et donc j'aurai bientôt un nouveau studio de tournage et un cadre beaucoup plus favorable pour travailler. Donc ça va changer beaucoup de choses, comme vous allez voir. De là, d'autres projets qui vont suivre dans la foulée, eh bien, en mars-avril, alors ça sera, c'est en mars pour la date, mais ça sera en avril probablement, on va fêter les 10 ans de la Web TV. 10 années à vous produire des émissions, un peu plus de 500 émissions sur la chaîne, ça fait quelques heures de visionnage. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, vous avez quelques vidéos à rattraper. Je suis assez heureux de cette aventure de 10 ans. On va faire quelque chose de bien pour fêter les 10 ans. Je ne sais pas encore quoi exactement, j'ai plusieurs idées en tête. Voilà, je vais vous... On en reparlera un peu plus en détail dans le live de la semaine prochaine. Mais on fera un truc pour les 10 ans. On va faire une grosse émission pour célébrer ça. Donc, je vous en parle plus en détail très bientôt. Ensuite, c'est la réactivation de la chaîne secondaire. Donc, la chaîne secondaire, je vous rappelle la chaîne principale où nous sommes actuellement. C'est une chaîne où j'ai une ligne éditoriale assez stricte. Je traite uniquement les sujets sur un plan historique, philosophique, anthropologique, etc., etc. Je ne donne pas trop, ou autant que faire se peut, le moins possible, mon avis personnel, notamment dans le cadre des croyances ou de mes pratiques personnelles. Néanmoins, c'est ce que je fais sur la chaîne secondaire. Sur la chaîne secondaire, je traite de mes pratiques personnelles. Je vous proposerai des émissions sur mon cheminement personnel, sur le plan de l'ésotérisme et de l'occultisme. Je vous parlerai de mes croyances, je vous parlerai de mes non-croyances, je vous parlerai de mes expériences et notamment de mes différentes expériences ésotériques, initiatiques et tout ce que vous voulez. J'avais tenté de lancer cette chaîne il y a 2 ans, justement, au moment de mon installation dans l'Aude, mais tous les événements de ces 2 dernières années m'ont fait repousser, hein, retarder la mise en place réelle de cette chaîne. Mais avec le nouveau studio, mon nouveau cadre de vie, je vais pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Donc, ça va démarrer un petit peu après l'installation, le temps de tout fabriquer pour le bureau, etc. Tout ça. Donc, laissez-moi encore un tout petit peu de temps, mais ça nous annonce de très bons moments. Je vous le dis d'avance. Alors, ça nous amène à deux gros projets qui sont en cours de création actuellement, qui ont pris énormément de retard dû à ces deux dernières années, mais on y arrive. Tout d'abord, la création d'une série sur les sectes et les sociétés secrètes. Donc, je vais faire des émissions enquête sur des sectes et des sociétés secrètes. Alors, j'en ai déjà traité, hein, des sociétés secrètes, mais on va poursuivre. J'ai traité notamment les Illuminés de Bavière, j'ai traité la franc-maçonnerie, j'ai traité la Rose-Croix, j'ai traité le Martinisme, j'ai traité des cultes à mystère antiques. Et bien là, on va traiter des sectes un peu plus récentes. On va traiter notamment de la sombre affaire de l'ordre du Temple solaire. On va traiter le cas du Grand Lunaire. On va traiter la fraternité hermétique des frères de Luxor. Quelques sectes, notamment la secte responsable de l'attentat à Tokyo au gaz sarin. J'ai plus son nom en tête là sur le moment tout de suite. On va traiter des Raéliens, on va traiter de voilà pas mal de trucs croustillants. La série sera sur la chaîne principale, bien sûr, puisqu'on va faire des enquêtes abouties sur ces sectes et sociétés secrètes, mais il y aura aussi toute une partie sur la chaîne secondaire, puisque moi-même, à titre personnel, il y a longtemps, bien avant le lancement de la Web TV, j'ai moi-même infiltré certains courants pour prendre des notes et tout un tas de choses afin de voir, d'étudier ces courants. Et parfois, il y a des choses glaçantes. Donc, on va en parler, en l'occurrence. Donc, voilà, ça, nous traiterons de ces sujets de différentes façons sur les deux chaînes. Autre série d'émissions que vous attendez depuis très très longtemps pour beaucoup sur la Web TV, mais elle arrive enfin. On reprend la saison 2 des Civilisations perdues. La première saison avait eu lieu en 2018-2019. Ensuite, j'avais fait quelques épisodes de façon sporadique dans les années 2020, 2021, 2022. Après trois longues années d'absence, on reprend, on va repartir sur un cycle de 12 épisodes qui vont démarrer vers mai-juin à peu près. On va repartir sur les émissions Les Civilisations Perdues. On va traiter des civilisations de l'Antiquité, civilisations des Grecs, civilisations des Romains, civilisations des Thraces, civilisations des Scythes, civilisations des Berbères, civilisations des Perses, des Assyriens. Les Assyriens, c'est déjà fait. Mais on va traiter des Cananéens, on va traiter des Hittites, c'est déjà fait aussi. On va traiter des Germains, on va traiter de tout un peuple de l'Antiquité, je sais que cela va vous ravir. Ça vient, c'est pour très bientôt. Donc, pas mal de projets en cours à venir. Voilà pour les annonces à faire. Alors, il nous reste quelques minutes, je vais aller dans le chat voir vos questions. Je vous rappelle que je ne prends les questions que des membres souscripteurs de la Web TV, ceux qui m'aident économiquement. Je vous remercie infiniment, ceux qui m'aident déjà. C'est grâce à vous que la Web TV survie. Je vous rappelle que YouTube, hein, ça a pas mal changé. Aujourd'hui, avec les chaînes d'intelligence artificielle, la multiplication des contenus, TikTok, Instagram, etc., on fait 2-3 fois moins de vues qu'avant sur les vidéos. Donc, voilà, on a dû changer nos modèles économiques. Donc, pour remercier tous ceux qui me soutiennent, vous êtes prioritaires, tout simplement. Alors, je remonte dans le chat. Où est-ce que j'avais mis ma petite barre? Je vais la retrouver. Vous avez été assez prolifique, je crois, dans le chat. Alors, je remonte. Je remonte, vous m'excuserez pour votre patience. Ah, voilà. Alors, tout d'abord, il y avait une petite question. Alors, ce n'est pas une question d'un membre, mais je vais la prendre quand même très exceptionnellement, et ce sera la seule de mon mob que je prendrai. Mais on me pose la question, es-tu sataniste ? Non, je ne suis pas sataniste. Je l'ai déjà dit dans de nombreuses émissions, je ne voue pas de culte à Satan, je ne prie pas Satan, je ne fais pas de rituel diabolique, je n'invoque pas de démons et je ne fais pas non plus de magie noire. Donc non, désolé de vous décevoir, je ne suis pas sataniste. Alors maintenant, je vais aller voir... Ça, ce n'est pas une question pour moi, je pense. Alors, question de Gillo. Est-ce que Satan existe ou est-ce un symbole? Difficile de répondre à ta question. Je serais tenté de dire que... Bon, je vais donner mon point de vue personnel. À titre personnel, je ne crois pas en l'existence objective de Satan. Je partage en réalité le point de vue de Stanislas de Guaita, qui dit que la meilleure arme de Satan, c'est d'avoir fait croire à son existence. D'autres diraient, à l'inverse, la meilleure force de Satan, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Question de point de vue. Moi, à titre personnel, je partage l'avis de Guaita. Satan n'existe pas, mais les gens peuvent néanmoins lui vouer un culte. Et à défaut d'exister, la peur du diable provoque des effets. Et donc, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas que l'égrégore provoqué par sa croyance engendre quelque chose. Donc, en gros, pour moi, la question de l'existence ou non de Satan n'est pas le plus important. En revanche, se référer à lui et la puissance qu'on lui prête donne une réelle puissance à des individus. Et donc, en soi, Satan n'a pas besoin d'exister pour que le mal s'accomplisse sous ce nom. Si tu vois un petit peu l'angle où je l'exprime. Des gens n'ont pas besoin de Satan pour faire le mal. Donc, en soi, qu'il existe ou n'existe pas, ne va pas enlever cet état de fait. Et puis, si des gens finissent par croire suffisamment, non, si on prend des millions de gens qui ont peur de Satan, sur un plan des égrégores, ils donnent une réalité à cette peur. Donc en soi, Satan n'existe peut-être pas en tant qu'entité autonome. En revanche, il y a tellement de gens qui ont peur de lui ou qui ont cru en lui, qu'on a donné vie et corps à une entité artificielle que l'on pourrait considérer comme étant Satan d'une certaine façon. Voilà. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps parce que c'est un sujet absolument passionnant, mais j'y réponds dans mon émission sur qu'est-ce que le satanisme. Alors, autre question. Christian nous dit vivement ces émissions, ce sera passionnant. Eh bien, je l'espère. J'espère que cela vous ravira. Dites-moi en commentaire sous la vidéo, pas dans le chat, mais sous la vidéo après la diffusion, si ça vous intéresse tout ça, bien entendu. Question de MRTintim. Question subsidiaire. Le nombre d'abonnés est-il à l'objectif? Non, non, non. On n'est pas à l'objectif du nombre d'abonnés pour que j'arrête d'avoir des terreurs nocturnes et des sueurs froides. C'est-à-dire que l'avenir de la chaîne est toujours précaire. Hein, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas là pour me plaindre si c'est pas l'idée. Mais on est à 50%. On n'est pas tout à fait à 50% de l'objectif au niveau nombre d'abonnés. Voilà. Donc on est toujours sur le fil un petit peu. Voilà. Ça reste précaire, mais ça avance tranquillement. On gagne un petit peu tous les mois. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ça avance tranquillement. Donc, voilà. Tout simplement. Alors, ça, ce n'est pas une question pour moi. Ensuite, y a-t-il d'autres questions de la part des membres? Question, l'émission avec Frater 7 aussi, j'espère. Eh bien, on a discuté, on avait échangé un message. Faut que je lui réponde. D'ailleurs, je suis très très en retard dans ma communication. Mais on était en discussion et je sais, je suis pas certain que ça va être possible dans les formes. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'apparaît pas, il ne souhaite pas apparaître visuellement à l'écran. Pour tout un tas de raisons qui lui sont tout à fait personnelles, bien entendu. Et moi, j'exige que mes invités, quand ils viennent sur la chaîne, apparaissent à visage découvert. Et donc, du coup, c'est pas forcément compatible. Alors, c'est pas du tout un problème, hein. Frater 7 est adorable et compétent en son domaine, donc il n'y a pas du tout de problème de ce côté-là. C'est juste une question de faisabilité, c'est pas forcément évident. Alors, ce sera peut-être des rendez-vous qui auront lieu ailleurs que sur ma chaîne. Je ne sais pas. Nous verrons. Voilà. J'ai pas eu trop le temps de m'en occuper ces temps-ci. Christian, j'adorais cette chaîne. Rassure-toi, elle arrive à 2000% cette chaîne. Ce n'était que des prototypes qui ont été faits sur cette chaîne. Mais il y a vraiment, vraiment. J'ai eu 2 ans pour maturer ce que je voulais en faire de cette chaîne. Donc, vous n'êtes pas prêt à ce qui va arriver sur cette chaîne secondaire. Vous n'êtes pas prêt. Alors, y a-t-il d'autres questions des membres? Ça, je ne sais pas si c'est une question, mais je vois Rachel nous dit invoquer Lucifer comme porteur de lumière et de connaissances nécessite-t-il forcément des sacrifices ou rituels horribles? Non, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui se réfèrent à Lucifer et qui considèrent Lucifer comme le porteur de connaissances, et qui donc l'invoquent ou invoquent cet égrégore, et ne font pas de sacrifice humain. Donc, ça dépend des groupes, en l'occurrence. Des groupes lucifériens, habituellement, ne font pas de sacrifice de sang. C'est les groupes de satanisme théiste qui font plus des sacrifices de sang. Dayette nous dit, en tout cas, merci énormément pour tout le travail partagé. Heureuse de participer comme je le peux. J'aimerais beaucoup faire des études de théologie, mais je ne peux pas avec ma santé. Eh bien, tu peux étudier de chez toi et j'espère que malgré ta santé, tu trouveras un petit peu de temps, soit pour lire, soit pour regarder des vidéos ou autre chose, et que tu te cultives à ton rythme, avec tes possibilités. Ce n'est pas une course. L'important, c'est de prendre plaisir dans l'apprentissage. Sans plaisir, je pense qu'on le retient déjà beaucoup moins. On apprend de façon forcée, ce n'est pas très agréable. Donc, fais comme tu peux, avec plaisir et à ton rythme. C'est tout ce que je te souhaite. Et évidemment, un bon rétablissement. Eh bien, nous sommes arrivés grosso modo à la fin du chat et à la fin des questions. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite émission. Alors, je sais qu'on traite un peu en parallèle d'une actualité un petit peu sensible. Je rappelle une dernière fois qu'on doit tous avoir une pensée pour les victimes. Il y a des personnes horribles sur cette planète. Il y a des monstres. Certains sont en prison. Certains ne le sont pas. Et il faut les dénoncer et les condamner. Mais je voulais simplement vous apporter cette petite nuance que parfois, le fait de voir un complot satanique global, c'est trop simpliste. Qu'est-ce qu'on entend par satanisme? Quelle est la définition du terme? Y a-t-il des sectes sataniques au sens sacrifice humain, rite horrible, etc., tout ce que vous voulez? Peut-être oui, en l'occurrence, il faut les dénoncer. Mais il y a de la nuance à faire et l'usage de satanisme est utilisé à tort et à travers pour définir tout et n'importe quoi et son contraire. Donc, je voulais simplement apporter un petit peu d'éclaircissement dans cette nébuleuse. Cette émission est donc un peu introductive par rapport à la série que je vais faire sur les sectes et les sociétés secrètes. Nous sommes sur un petit vlog. C'était une émission légère. Voilà, je ne vous ai pas mis de bibliographie. On n'est pas fait pour rentrer dans le détail de tous ces sujets. C'est des petites émissions diffusées comme ceci en direct pour passer un petit moment de partage et d'échange avec vous. De ce fait, ces émissions n'ont pas vocation à rester en ligne publiquement sur la Web TV. Hein, c'est des émissions qui vont passer en privé pour les membres d'ici quelques jours après sa diffusion. C'est pour remercier les membres de la Web TV de petits moments d'échange qui sont des compléments aux vidéos classiques de la Web TV. Au niveau du programme immédiat, mercredi, parce que j'ai oublié de vous le dire, je suis en train de préparer la série d'émissions, 12 épisodes, hein, qui vont intervenir sur 2 ans, sur les sectes et les sociétés secrètes. 12 épisodes sur 2 ans qui vont venir, un tous les 2 mois à peu près, à partir de mai. Les épisodes sur les civilisations perdues, saison 2, tous les 2 mois, 12 épisodes sur 2 ans à peu près, c'est pour bientôt. Mais il y a une troisième série qui arrive. Et qui, en fait, commence mercredi. C'est le cycle des fêtes et du calendrier. Nous allons traiter toutes les grandes fêtes des traditions du christianisme, mais pas uniquement. Alors, j'ai déjà traité Noël sur la Web TV, j'ai déjà traité de Halloween, la Samhain, j'ai déjà traité des Saturnales récemment, mais là, je vais traiter des Lupercales, je vais traiter de la Chandeleur. Alors, Chandeleur, ça sera pour l'an prochain. Je vais traiter de Pâques, je vais traiter de Thanksgiving, je vais traiter des Feux de la Saint-Jean, je vais traiter de la Toussaint, je vais traiter des Lémuria, je vais traiter de l'Assomption de la Vierge, je vais traiter de la Pentecôte, etc. Donc, tout un tas de fêtes qui vont intervenir près des dates clés des calendriers. Et mercredi prochain, vous allez avoir un épisode qui va intervenir où nous allons traiter de la Saint-Valentin. Mais si vous pensez un seul instant que la Saint-Valentin n'est qu'une simple fête des amoureux, mais alors vous vous mettez le doigt dans l'œil, le bras, le poignet et même un immeuble en entier dans l'œil. Donc vous allez avoir une enquête, un épisode du mythe à la réalité, donc les émissions enquêtent en 40 minutes sur la Web TV, où nous allons décortiquer, exhumer de long en large la fête de la Saint-Valentin, mais nous allons aller beaucoup plus loin que cette simple célébration. Accrochez-vous, c'est pour mercredi. Et puis, la semaine prochaine, nous aurons une émission live, le dernier live dans mon logement actuel. Et puis ensuite, nous terminerons le mois avec une nouvelle émission de l'Academia où nous poursuivrons notre exploration des évangiles apocryphes. Alors, si vous aussi, vous souhaitez accéder à l'Academia du mois en cours, hein, qui va traiter d'un nouvel évangile apocryphe, eh bien, vous pouvez devenir membre souscripteur de la Web TV au statut arcaniste. Vous aurez automatiquement accès à la vidéo quand elle sortira à la fin du mois. Et vous pouvez aussi passer sur Tipeee, mon site de financement participatif, et donc devenir tipeur pour minimum 3 euros. Et vous recevrez aussi automatiquement la vidéo de l'Académia. Sur ce, un grand, grand merci à tous d'avoir été présents pour ce petit live de fin d'après-midi. Un grand merci aux modérateurs d'avoir été présents ce soir. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches. Et je vous dis à très bientôt.